Bonjour Yann Brossat.
Bonjour.
Le navire Aquarius, on en parlait, est attendu demain dans le port de Valence. Ce sera la fin d'un périple éprouvant et d'un imbroglio politique européen de plus d'une semaine. La France a-t-elle manqué à son devoir en ne proposant pas d'accueillir le navire et les 629 migrants ?
À l'évidence, elle a manqué à son devoir, pas seulement parce que nous n'avons pas été capables d'ouvrir un port français, mais parce que nous ne sommes pas capables, à l'échelle de l'Union européenne, de peser pour un accueil digne des réfugiés. Et il n'est effectivement pas normal que cet accueil repose essentiellement sur un effort des pays du Sud. Et nous devrions donc prendre la main et faire en sorte que cet accueil se fasse d'une manière équilibrée à l'échelle de l'ensemble de l'Union européenne. Je pense d'ailleurs que la France devrait peser pour que lors du prochain Conseil européen qui aura lieu fin juin, cette question soit à l'ordre du jour et que nous nous organisions enfin à l'échelle de l'Union, pour que cet accueil se fasse correctement.
Vous êtes candidat aux élections européennes de l'an prochain, on va y revenir. Qu'est-ce que vous proposez, vous et les communistes, pour réformer cette politique d'asile ?
Moi, je suis favorable à ce que nous ayons, à l'échelle de l'Union européenne, une clé de répartition qui nous permette de sortir de ce jeu de ping-pong permanent qui fait que les réfugiés sont aujourd'hui traités d'une manière qui est indigne de nous, indigne des valeurs de l'Union européenne.
Ça
la France,
pas des
par exemple... Mais ça, oui, pourquoi pas. Et par ailleurs, moi, je suis favorable à ce que la France pèse pour que nous en finissions avec le règlement de Dublin qui fait que lorsque un réfugié arrive, par exemple, en Italie, qu'il laisse ses empreintes en Italie, qu'ensuite il ne souhaite pas forcément construire sa vie en Italie, il est en réalité condamné à déposer sa demande d'asile dans le pays où il est arrivé en premier. C'est totalement absurde. Absurde parce que cela fait peser tout l'effort sur les pays du Sud qui ne sont quand même pas les plus fortunés, et absurde parce que ça ne correspond pas aux souhaits de vie de ces réfugiés qui, pour une part, souhaitent aller en France ou en Grande-Bretagne. Donc il y a évidemment un travail à faire, et pour l'instant, la France ne porte pas cette exigence d'un changement du règlement de Dublin, je le regrette.
L'accueil des migrants, vous parliez d'un accueil digne à l'instant. À Paris, 36 campements de migrants ont été démantelés en 3 ans. Les derniers, c'était il y a 2 semaines environ. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Y a-t-il encore des migrants à Paris ?
Il y en a d'abord qui, et heureusement, ont été hébergés suite à ces opérations de mise à l'abri dans un certain nombre de gymnases, dans une aire que nous avons ouverte au Bois de Boulogne et dans laquelle on a un peu plus de 150 réfugiés qui dorment aujourd'hui. Ils sont enfin sortis d'une situation d'indignité. En revanche, ce que je regrette, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui de dispositif pérenne qui nous garantisse qu'il n'y aura pas à l'avenir, dès cet été, de nouveaux campements. C'est la raison pour laquelle nous faisons une proposition avec la maire de Paris, qui est la création d'un centre humanitaire, d'un centre de premier accueil, de grande capacité, qui permette d'accueillir ceux qui arrivent avant même l'examen de leur situation. C'est une proposition que nous avons faite. Cela a existé avec le centre de la Porte de la Chapelle. Il a été fermé par le gouvernement. Et aujourd'hui, pour l'instant, il n'y a pas de structure qui, comme le centre de la Porte de la Chapelle, permette cet accueil convenable de ceux qui arrivent. Il y en a entre 70 et 80 qui arrivent. Ce flux ne va pas se tarir du jour au lendemain, et donc il faut s'organiser à dessein pour éviter la constitution de nouveaux campements.
Et où serait situé ce site d'accueil ?
C'est une discussion qu'il faut avoir avec l'État. Je suis persuadé qu'avec un peu de bonne volonté de l'État, nous arriverions à nous mettre d'accord sur un site. En tout cas, nous sommes candidats à l'ouverture d'un centre de premier accueil à Paris. Nous l'avons dit au gouvernement. Pour l'instant, le gouvernement fait la sourde oreille. Mais je ne vais pas vous le cacher, il y a effectivement une divergence d'appréciation entre la ville de Paris et le gouvernement. Le gouvernement est persuadé qu'en dégradant les conditions d'accueil, on fera en sorte qu'il y ait moins de monde qui vienne à Paris. Le constat qu'on fait, c'est que ça n'est pas le cas et que si on ne règle pas le problème de manière pragmatique, il y a un risque de constitution de nouveaux campements.
Le 3 juin dernier, vous avez été désigné tête de liste des communistes pour les élections européennes de l'an prochain. Vous estimez avoir fait votre temps à la mairie de Paris ?
Non, j'ai encore d'ailleurs beaucoup à faire à la mairie de Paris. Les élections européennes ont lieu dans un an. J'ai encore plus de 7000 logements sociaux à livrer au cours de l'année qui vient. Simplement, le constat que j'ai fait, c'est que sur un certain nombre de dossiers, nous sommes en butte à des problématiques européennes. Je vais vous prendre un exemple. Nous réunissons ce matin à Paris un grand nombre de villes européennes confrontées au développement d'Airbnb et de ces plateformes qui pullulent un peu partout dans les grandes villes touristiques. Aujourd'hui, la réglementation que nous avons mise en place et qui vise à mieux réguler ces phénomènes à l'échelle de l'Union européenne est attaquée par Airbnb, et lorsqu'Airbnb nous attaque, elle se tourne vers la Commission européenne qui systématiquement prend le parti de ces grandes plateformes multinationales. C'est un exemple. J'aurais pu citer aussi la question des réfugiés, mais on voit bien que sur une série de sujets qui sont des sujets très concrets auxquels nous sommes confrontés à Paris, si on veut que ça bouge, il faut aussi que ça bouge à l'échelle de l'Union européenne.
Pour ces élections européennes, les communistes donc, ont présenté une liste. Est-ce que vous pensez y aller seul à ces élections ?
Moi, je ne souhaite pas y aller seul et je suis persuadé que je serai bien accompagné dans cette élection. Nous organisons d'ailleurs le 2 juillet prochain une rencontre avec un certain nombre de forces de gauche, de forces sociales. Notre objectif, c'est le rassemblement le plus large de ceux qui ne sont pas satisfaits de l'Europe telle qu'elle est et qui voudraient que l'Europe change de fond en comble. C'est notre objectif. Nous verrons bien ce que nous sommes capables de construire. Mais moi, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens dans ce pays qui peuvent se rassembler autour de cette exigence-là.
Mais alors, on a l'impression que ça soit Europe Écologie Les Verts, les socialistes, Génération de Benoît Hamon, tout le monde est favorable à un rassemblement, mais autour de ses propres idées. Est-ce que à l'avenir, on peut imaginer des passerelles, une plateforme commune qui ferait que chacun se rassemblerait, mais autour de points communs, vraiment, et pas autour d'un parti ?
Je le souhaite ardemment. Travaillons-y. Pas simplement, d'ailleurs, entre forces politiques. Il y a toute une série de luttes dans notre pays, à la fois du côté de la SNCF, mais aussi du côté des salariés de Carrefour. Il y a une véritable ébullition en France, une ébullition sociale, une colère à l'égard de la politique du gouvernement. Soyons capables de nous rassembler. En tout cas, moi, je porterai ça. Je suis chef de file, pas tête de liste. Donc, notre objectif, c'est de travailler à ce rassemblement-là, sans préalable. C'est le sens de la rencontre que nous organisons le 2 juillet. Et moi, je suis toujours dans une logique de main tendue. J'ai des idées, j'ai des convictions, mais j'ai envie de rassembler.
Et qu'est-ce qui bloque alors aujourd'hui pour faire en sorte que l'unité de la gauche soit vraiment effective ?
Peut-être parce qu'il y a parfois des comportements qui ne jouent pas collectif. Moi, en tout cas, je souhaite jouer collectif parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera à gagner et à faire triompher nos idées.
Emmanuel Macron était mercredi à Montpellier pour prononcer un discours au Congrès de la Mutualité française. Est-ce qu'on a assisté à un redressement social de sa politique ?
Je pense qu'on assiste exactement au contraire. Le jour même, il a diffusé des propos qui, de mon point de vue, étaient des propos scandaleux et qui sont reçus comme une insulte par des tas de gens, expliquer que les aides sociales coûtent trop cher dans notre pays quand on sait la situation.
Ça coûtait un pognon de dingue et que l'État dépensait trop pour les aides sociales.
Exactement. Et quand on sait, par exemple, que le CICE coûte chaque année à l'État 20 milliards d'euros sans effet tangible sur l'emploi, je pense qu'il y a un discours qui est en réalité une sorte de deux poids, deux mesures, qui considère systématiquement que les pauvres coûtent trop cher et jamais que les riches coûtent un pognon de dingue, alors même que c'est le cas.
Alors, quelle serait pour vous, pour les communistes, la vraie politique sociale à mener ?
La vraie politique sociale, c'est une politique de relance par l'activité qui permette qu'on retrouve le chemin de l'emploi, qu'on mise très largement sur les services publics. Aujourd'hui, dans nos villes, dans nos quartiers populaires, comme dans la ruralité, on a une disparition du service public créé de l'emploi. Ça passe notamment par la relance du service public et par le fait de créer de l'emploi dans ce secteur-là. On a aujourd'hui encore trop de classes qui ferment, trop de guichets de poste qui ferment dans nos campagnes. Il faut en finir avec tout ça. Remiser sur le service public, c'est permettre aussi de relancer l'emploi.
Je voulais vous faire réagir à la une de Libération ce matin sur la prime et la retraite exceptionnelle accordée à l'ex-patron de Carrefour, plus de 17 millions d'euros, alors que dans le même temps, le groupe supprime des emplois. Qu'est-ce qu'on en dit de ça ?
C'est exactement ce qui fait que des millions de gens dans notre pays sont dégoûtés de cette injustice sociale à tous les niveaux. Et franchement, entendre ça, apprendre ça, alors même que le président de la République parlait de ces pauvres qui coûtent un pognon de dingue, c'est quand même une sacrée provocation.
En quelques mots, Yann Brossa, vous avez dit cette semaine que Paris maintiendrait son objectif de 100% de logements sociaux neufs accessibles aux personnes handicapées. Vous prenez donc le contre-pied de la loi Elan, qui vient d'être adoptée par les députés, et qui abandonne cet objectif pour le remplacer par un minimum de 10%. Est-ce que Paris se veut un laboratoire de la politique de gauche ?
Je pense que c'est d'abord une question de dignité et de respect pour les personnes en situation de handicap. Je suis d'ailleurs frappé par le nombre de personnes qui m'ont remercié depuis que nous avons décidé de prendre cette décision. Un laboratoire de gauche, je ne le sais pas. Les Parisiens ne sont pas des rats de laboratoire. Mais en tout cas, une volonté qui est une volonté sociale de ne laisser personne sur le bord du chemin. Et je crois que c'est l'honneur de notre ville d'agir ainsi. Et nous continuerons donc à faire 100% de logements accessibles aux personnes handicapées.